Alors, en ce qui concerne la variation linguistique, nous avons vu qu'il existait un type de classement qui répartissait les variations en diatopique, diastratique, diaphasique, diachronique, et ainsi de suite. Il existe également un autre type de classement qui s'appuie, celui-ci, sur l'usage et l'usager. Alors, nous allons voir ce nouveau classement. Partons du constat que les langues changent ou ne sont jamais toujours exactement les mêmes dans leurs usages, il faut reconnaître l'existence de variétés linguistiques. Coexistent des formes différentes de ce que les locuteurs vont identifier comme leur langue, au singulier ou au pluriel, pour exprimer tantôt consciemment, tantôt délibérément, non seulement des signifiés, des sens identiques, mais encore leur propre identité, la nature du lien social, le type d'interaction. Les différentes réalisations de ces variétés sont évidemment liées aux changements linguistiques dont elles sont l'un des aspects dynamiques. Elles sont l'ancrage synchronique du changement linguistique propre à un pluricode qui dès lors varie dans ses diverses variations. Alors je cite ici justement Françoise Gadet. Sur base de ce que nous venons de dire, Françoise Gadet considère deux types de variations. C'est un autre classement que le classement selon diatopie, diachronie, diastratie et diaphasie. Alors, ces deux types de variations sont d'une part la variation selon les usagers, c'est-à-dire les personnes qui utilisent la langue, dans la variation selon les usagers, vont rentrer la variation diachronique, autrement dit variation historique. Le français du XVIIe siècle n'est pas le français du XXIe siècle. Toujours dans la variation selon l'usager, on peut insérer la variation diatopique ou variation géographique ou spatiale. Le français, et là on revient pleinement à notre question de la francophonie, le français de France, le français du Canada, le français de Suisse, ou encore à l'intérieur d'un même espace territorial, le français de Paris ou le français de Lyon. Toujours dans la variation selon l'usager, on aura aussi la variation diastratique, c'est-à-dire la variation sociale et démographique, l'âge, la condition sociale, la profession, le niveau d'études, et ainsi de suite. Ce sont ces éléments que l'on a définis par ailleurs comme des sociolectes, donc ces variations liées à la position sociale du locuteur. On parle aussi parfois dans cette même catégorie de technolectes, qui sont ces variétés liées à la profession. Donc voilà pour la variation selon l'usager. Donc variation selon l'usager qui englobe le diachronique, le diatopique, le diastratique. Si nous passons maintenant à la variation selon l'usage, on tiendra compte de la variation diaphasique ou variation situationnelle. Une même personne, quelle que soit son origine sociale, parle différemment selon la situation de communication. On verra la variété des formes différentes de langue que l'on apparente parfois à des registres. Certains parlent d'un registre plus soutenu ou encore soigné, d'un registre familier. Certains évoquent même la question de registre vulgaire. Les classements selon le registre, là aussi, sont parfois varient un peu et sont parfois un peu discutables. Alors, variation selon l'usage et selon l'usager se manifeste à tous les niveaux. C'est exactement pareil si je prends les différentes variations singulièrement. La variation diatopique va se manifester dans les différents domaines de la langue, donc le domaine phonique, le domaine morphologique, le domaine syntaxique et le domaine lexical. Très souvent, ce qui émerge de manière plus immédiate sera la variation au plan lexical et la variation au plan phonique. Ce sont en général les traits qui vont se marquer de manière la plus évidente. Alors, pour la variation phonique, eh bien, par exemple, si on se place dans le domaine de la francophonie, on observera notamment pour le français du Québec, eh bien, des traits qui vont toucher les consonnes. En particulier, on signale régulièrement les consonnes dentales, les T et les D, qui dans certaines positions, pas partout, vont être prononcées, vont être affriquées, c'est-à-dire qu'au lieu d'entendre D, j'entendrai des Z, au lieu d'entendre T, j'entendrai T. Ça, c'est un trait phonique que l'on peut voir comme une distinction au sein de la francophonie. Mais sans aller dans des espaces éloignés, on peut très bien remarquer par rapport à la France une distinction nette que l'on opère souvent au niveau géographique. On va couper en quelque sorte la France en deux, nord et sud, et cette ligne de démarcation se fera au niveau de la Loire. Et on considère justement que ce sont évidemment des macro-traits phonétiques, que la manière de prononcer certains sons vocaliques, comme le E dit muet, on l'appelle E muet parce qu'il tombe dans certaines positions, mais seulement dans certaines, le E muet, caduque ou instable, va présenter des réalisations différentes en fonction que l'on se trouve au nord ou au sud de la Loire. Ainsi, on considère comme un trait caractéristique du français parlé au sud de la Loire, mais là encore, il faudrait faire des distinctions beaucoup plus fines, mais disons de manière générale, on considère que le E muet sera prononcé beaucoup plus fréquemment dans le sud de la France, y compris dans sa position finale. Or, on sait que le E non accentué graphiquement, quand il est en position finale, ne se prononce pas habituellement. Dans le sud de la France, ce E pourra être prononcé en position finale, mais à l'exception, il ne se prononce pas à l'exception des monosyllabes telles que le, me, te, ce, et ainsi de suite, où évidemment il se prononce aussi dans le nord de la France. Mais dans le sud, on remarque que ce E en position finale pourra être prononcé beaucoup plus fréquemment. Il pourra être prononcé aussi à l'intérieur du mot, alors que si j'étais au nord, ce E ne serait pas prononcé. Donc ça, c'est un trait phonique qui va avoir un effet, pas seulement au niveau de la prononciation du phonème individuellement, mais aussi au niveau du nombre de syllabes, parce que justement, ajouter un E, la prononciation d'un E, va ajouter une syllabe supplémentaire. Et ça va quelque part modifier le plan suprasegmental, donc pas simplement le plan des phonèmes, mais le plan aussi du patron intonatif. Donc ça, c'est une variation au plan phonique. Sans entrer nécessairement dans la séparation nord-sud de la France, on remarque aussi que un E va pouvoir être plus ou moins ouvert en fonction de la région où je me trouve. On entendra des les et des les qui vont varier par rapport à l'espace francophone, mais par rapport aussi à l'espace hexagonal. Et là encore, par rapport à la transcription des dictionnaires, très souvent je ne trouverai qu'une seule forme de prononciation. Sur le plan morphologique, ben bon, parfois on va observer des modifications dans les conjugaisons, dans les terminaisons verbales. Sur le plan de la syntaxe, on peut envisager des modifications, par exemple, dans les tournures interrogatives, l'interrogation en tu, qui vient en réalité d'une ancienne interrogation en français qui se faisait par « ti », aujourd'hui existe en français du Québec par l'interrogation en « tu » qui est tout à fait fréquente. Évidemment, le lexical, mais ça on s'en rend facilement compte aussi par rapport à d'autres langues, à l'italien, où on va voir que d'une région à l'autre, on emploiera un terme que nos voisins n'utilisent pas nécessairement. Hein. Si on reste dans l'espace francophone, bien, je pense par exemple à des différences au niveau du français et de la Belgique, où d'une part des termes ne seront pas utilisés de la même manière dans les deux pays, mais on peut aussi envisager que un même terme corresponde à des sens différents. Alors, je peux donner l'exemple du mot torchon. Alors, qu'est-ce que c'est en France qu'un torchon ? Eh bien, le torchon est un morceau de tissu qui sert fin, un tissu fin en coton ou en lin, qui sert à essuyer la vaisselle. Donc, quand j'ai lavé mes assiettes, mes verres, quand on n'a pas de lave-vaisselle, on les essuie avec un torchon. Si j'utilise le même mot en Belgique, le torchon va toujours désigner un morceau de tissu, mais cette fois-ci, il ne servira plus du tout à la même chose. Ce sera un tissu beaucoup plus épais que l'on va trempé dans l'eau et qui va nous servir à nettoyer le sol. Ce torchon, tel qu'on l'utilise en Belgique, portera un autre nom en France et ce sera une serpillière. Donc vous voyez comment un même terme dans la variation diatopique va changer de sens, ou on peut aussi imaginer que le plan lexical va être lié aussi à des habitudes culturelles, à des réalités sociales, géographiques, qui n'existent pas nécessairement partout. Si on se place justement dans l'espace canadien, le français qui est parlé par exemple au Québec répond à des besoins aussi pratiques où on doit nommer des objets qui n'existent pas, par exemple, en France ou en Belgique. Alors, c'est une réalité géographique où le climat est différent, où on a de la neige, où on a de la glace. C'est une réalité aussi où on pratique une réalité maritime, où on pratique aussi la pêche. Et on va avoir, par exemple, un objet qui sert justement à pêcher sur des surfaces gelées et qui s'appelle le nigog. Évidemment, en français de France, le mot n'existe pas, mais la réalité n'existe pas non plus. De la même manière que, par exemple, il existe dans certaines langues une gradation de couleurs qui vont correspondre à des termes bien spécifiques pour désigner la couleur de la mer, par exemple. Voilà, donc pour la variation lexicale. Donc, justement, la variation, il est important de le rappeler, touche les différents domaines de la langue. Alors, ce que je voudrais encore ajouter est que, en fonction des langues dont on parle, certaines variations vont être plus marquées, plus présentes, plus spécifiques à une langue. Si on reste dans la réalité du français, on considère aujourd'hui que les traits diatopiques sont relativement moins marqués qu'autrefois, et ceci en particulier suite à l'arrivée notamment des médias et en particulier de la télévision, où les médias nationaux tendent à diffuser une langue qui est appelée, que l'on désigne souvent par le terme de français de référence. Ce n'est bien entendu pas le français standard, puisqu'on le sait, le français standard n'est pas la réalité qui est parlée, mais un français de référence au sens où justement c'est une forme de langue qui a gommé le plus possible tous les traits qui renvoient justement à de la variation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de légère marque de variation, mais c'est donner l'idée d'un français le moins marqué possible, et c'est le français justement que l'on va entendre si l'on regarde les journaux télévisés nationaux. Mais au-delà de ça, justement, si on revient sur les variations qui sont les plus significatives pour la langue française, mais évidemment, le diatopique a tendance à être fortement atténué. En revanche, on considère que le diastratique, lui, est extrêmement présent. Et là, on pourrait, par exemple, ouvrir une parenthèse sur ce que l'on appelle, par rapport à la langue française, la langue des jeunes, qui n'est pas la langue des adolescents, mais qui correspond à une réalité sociale et géographique bien spécifique. Donc, si on fait la même considération par rapport à l'italien, on peut en revanche considérer que par rapport à la langue italienne, le diatopique est quant à lui extrêmement significatif. Voilà, je rappelle encore en guise de conclusion qu'il ne faut absolument pas considérer les variations, les différentes formes de variations comme des éléments totalement cloisonnés, séparés. N'oublions pas qu'il y a une forme d'interpénétration entre les différents types de variations. Et justement, on va voir qu'elles peuvent se cumuler et se renforcer les unes les autres. On va en rester là pour cette partie sur la variation dans un autre type de classement qui était finalement variation selon l'usage et variation selon l'usager. Mais on voit bien de toute manière que l'on adopte le classement à travers les DIA, donc diatopique, diaphasique, diastratique, diamésique et ainsi de suite, ou que l'on adopte cet autre classement dont je viens de vous parler, variation selon l'usage et variation selon l'usager, ça ne change rien, les éléments d'analyse et les considérations peuvent se faire à travers l'un ou l'autre classement. C'était simplement pour vous montrer que l'on peut aussi adopter des positions différentes, usage-usager ou diachronie, diastratie, diaphasie, mais dans tous les cas, les éléments linguistiques que l'on va présenter sont identiques.